Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et maintenant, c'est le Canu Info du vendredi, comme une semaine sur deux, le Canu Info spécial anticarcéral.
Bonsoir. Alors, pour aujourd'hui, on va faire une rubrique avec international, les Kurdes en Syrie et puis la Bosnie-Herzégovine. On va continuer après.
Avec les lois islamophobes pour revenir en France et parler un petit peu de Villeurbanne comme nouvelle locale. Et comme tous les 15 jours, on aura des petites infos anticarcérales avec...
La prison en Turquie, Philippe Lalouel, un prisonnier longue peine qui vient de passer encore une fois devant le tribunal dans le sud de la France.
Les petites bref traditionnel et on finira parce qu'il y a des messages cette semaine encore pour les prisonniers détenus à Lyon-Corbin.
Et puis on salue tous les prisonniers et prisonnières qui nous entendent dans les différentes prisons autour de Lyon, du coup Saint-Quentin-Fallavier, le PM de Mézieux, les retenus qui sont au centre de rétention de Saint-Exupéry, et puis ceux qui sont et celles qui sont à la prison de Corbin, voilà, solidarité. Et du coup, y a des messages qui sont diffusés à la fin de l'émission, mais on peut aussi, si vous entendez ça, vous pouvez dire à vos proches qu'ils peuvent nous appeler dans 15 jours, on rappellera tout ça. Mais voilà, on voulait d'abord vous saluer pour commencer cette émission. Et aujourd'hui, on a...
avec des Kurdes en Syrie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc, on a un invité spécial qui est Diyar, qui est avec nous. Et du coup, on va parler et français et turc. Et moi, mon turc est un peu fragile, du coup, les traductions vont peut-être être un peu difficiles, mais on va y arriver, du coup, merhaba.
Merhaba.
Nasılsın?
İyiyim, nasılsın?
Teşekkürler. Et du coup, tu veux nous parler du mur qui s'est mis en place entre la frontière syrienne et la frontière turque. Du coup, c'est le gouvernement turc qui l'a mis en place.
Ouais. En fait, c'est commencé en 2011. Et d'abord, je veux dire, je ne parle pas bien français. Je n'arrive pas, des fois, à expliquer bien. Excusez-moi pour ça.
Et du coup, est-ce que tu es arrivé en France il y a quelques années et tu apprends le français ?
Voilà. En fait, c'est commencé en 2011. Et deux mètres avec le béton et troisième mètre, c'est comment il s'appelle ?
Des barbelés.
Ouais.
Et
le président en Turquie, il a dit qu'il pouvait pas on l'a fait pour la terroriste, mais ils ont fait plus pour le étranger qui passe pas en Turquie, pour en Turquie.
Ouais, ok. Et du coup, en 2011, c'est la guerre qui a commencé en Syrie.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la Turquie ? Parce qu'en Turquie, il y a pas la même forme de guerre, en fait. Il y a la guerre en Turquie ou pas ?
Ouais, il y a la guerre en Turquie aussi.
Aussi, ouais.
À Berlin, il y avait le mur.
Ouais.
Mais en Turquie, ils ont dit un mur de Hunt.
Ouais.
Mais c'est pas même 2 mois, ils ont fait pareil un mur dans la frontière. Et à cause de ça, il y avait un manif, ils ont fait plusieurs fois manif. Et il y a la guerre de naissance de l'OS. En Turquie et en Syrie aussi.
Ok.
Dans la frontière, quoi.
Mais c'est quoi la guerre en Turquie? Tu me dis que c'est... Quelle est la guerre?
C'est la guerre kurde avec le fasciste de Turquie, avec la police, avec le... Comment il s'appelle là?
Avec l'armée.
Ouais, l'armée.
Ok.
Ouais.
D'accord. Et du coup, si le gouvernement turc a voulu faire un mur entre la Syrie et la Turquie, c'est parce qu'aussi, l'été dernier, le gouvernement de Damas a laissé les territoires autonomes pour les Kurdes dans le nord de la Syrie.
Ouais.
Et en fait, du coup, maintenant, il y a des territoires autonomes. Et en fait, ça fait que les Kurdes se battent d'un côté contre l'armée libre, contre des djihadistes, et moins contre le gouvernement syrien, parce qu'il a essayé un peu de dominer les minorités pour essayer de garder du pouvoir. Et du coup, la Turquie, ça leur a pas vraiment plu. Et c'est là où ils ont continué à faire le mur. Du coup, c'est un mur de 2 mètres en béton, et après, par-dessus, des barbelés.
Oui, exactement.
Et dans les articles que j'ai pu lire, les parties kurdes, le BDP, du coup le BDP, tu peux nous expliquer ce que c'est ?
En fait, BDP, c'est un de... Comment ça s'appelle ? Ils ont fait politique pour les Kurdes. Mm. Et c'est comme PKK, quoi. Les PKK, ils ont fait la politique sur la montagne.
Ouais.
Et dans la ville, le BDP qui l'a fait.
D'accord.
C'est un parti politique, en fait, le BDP.
Oui, c'est un parti politique pour les Kurdes, quoi.
Mm. C'est comme le PKK, mais...
Oui, ils ont plus de faire de communistes. Ils ont communistes. D'accord. Dans un parti de communistes.
Et ils ont des municipalités, et puis après, ils font plein de mobilisations pour les droits des Kurdes, les droits des...
Ouais, pour tout le monde. Pour Alevi, pour Kurdes, pour étrangers, pour Syrie, pour tout le monde.
Pour les Arméniens aussi.
Pour l'Arménie aussi. Ils ont fait plusieurs fois la manifestation pour Rolanding, pour tout le monde. Quoi.
Parce que le gouvernement turc ne reconnaît toujours pas le génocide arménien, et par contre, les mouvements autonomes kurdes le reconnaissent et se mobilisent là-dessus. Et du coup, eux, ils dénoncent la construction du mur, le BDP, entre le Kurdistan syrien et les Kurdes de Turquie. Et ils voient une colonisation internationale, et je cite la coprésidente du Parti pour la paix et la démocratie qui dit « Si la Turquie veut devenir Israël, alors les Kurdes sauraient devenir Palestine. » Parce qu'il y a aussi un mur qui est assez, qui est tristement célèbre en Israël.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ce coin de...
En fait, 140 000 Kurdes qui sont retournés en Syrie. Ils ont rentré en Turquie, ça ne passe pas bien. Il y avait, ils ont parti en Syrie pour la guerre, à cause de la guerre.
Mm.
Mais je pense qu'ils sont rentrés en Turquie aussi, il y avait le même problème à peu près. Et voilà, ils ont retourné, je pense, en 40 000 Kurdes. Et voilà, c'est pareil, en Turquie, un peu. Juste en Syrie. Il y a la guerre dans la ville, partout.
Mm.
Mais en Turquie, il y a la guerre politique et psychologiquement. Mm. Il y a quelque part aussi, physiquement aussi.
Mm. Souvent, quand on parle de la Turquie, le conflit armé en Turquie, on dit que c'est plutôt une guerre qui sommeille, ou je ne sais plus, il y a une autre expression, parce qu'elle est beaucoup plus... elle est très longue.
Ouais.
Et c'est pas des bombardements et camps de réfugiés tous les jours.
Ouais. Exactement.
Mm. Et aussi, tu me disais que tu as d'autres choses à dire sur les Syriens qui retournent en Syrie, les Kurdes ou quoi ? Non ?
Non.
Il n'y a pas aussi des demandeurs d'asile qui se sont fait tirer dessus quand t'es...
Ouais, il y avait en fait 4 personnes aussi, ils ont attaqué l'armée turque. Ils ont attaqué dans le bus. Il y avait 4 personnes qui ont meurt dans la bus.
Et les personnes, c'était des Kurdes syriens.
Kurdes syriens, voilà, exactement. Ils sont entrés en Turquie pour demander asile. Mm. En fait, l'armée turque, ils ont tué beaucoup les gens. Ils ont dit qu'ils sont terroristes. Même, ils ne savent pas, ils sont syriens ou ils ne savent pas kurdes ou syriens ou n'importe qui. Ils sont attaqués s'ils passent de frontière pour justement pas asile. Et le président de Turquie aussi même, il a dit qu'il y a sur la terre en Turquie, dans un an, après il y a, je crois, il y a 1 million, je ne me rappelle pas exactement combien, mais je crois qu'il a dit à peu près 1 million terroristes, ils sont entrés en Turquie.
C'est Erdogan qui a dit ça ?
C'est Erdogan, ouais.
D'accord. Lui, il considère que toutes les personnes qui passent la frontière turque, elles sont...
Ils sont terroristes.
C'est ça.
Ouais.
C'est facile. Mmh.
Et je veux dire aussi, en Turquie, en prison, dans tous les 2 jours, une personne qui meurt dans prison.
Ah oui. On allait le dire plus tard.
D'accord.
Ouais. Bon, en tout cas, merci, parce que du coup, on n'a pas fait de traduction entre le turc et le français.
Ouais.
Et tu veux nous présenter le morceau que tu as choisi ? On va mettre un morceau de musique.
Ouais.
Et qui c'est qui chante?
Chérie Norman, si vous avez. Chérie Norman, s'il vous plaît.
Ah bah, on va vous mettre un morceau de musique.
C'est Aynur Dogan, c'est ça?
Ouais, c'est Adorin qui les chante.
Allez, c'est parti. Hop. Et la musique. Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, le Canu Info du vendredi, une semaine sur deux, le Canu Info anticarcéral.
Et ça continue, pas avec de l'anticarcéral, mais plutôt on va parler de la Bosnie-Herzégovine et ce qui se passe là-bas depuis 3 jours, parce que c'est de la folie. Donc la Bosnie-Herzégovine, c'est un pays là qui a une frontière avec notamment la Serbie, avec la Croatie dans les Balkans, qui a été marqué par une guerre civile il y a 25 ans. Et en mai de l'année dernière, mai 2013, c'était la première fois qu'il y avait un grand mouvement social dans Bosnie-Herzégovine qui rassemblait toutes les composantes de la société, parce que le pays est assez divisé entre une composante croate, une composante bosniaque et une composante serbe. Alors voilà, mais l'année dernière, il y avait eu ce grand mouvement social qui était dû à la base au fait que les nouveau-nés n'étaient plus enregistrés, du coup ils n'avaient pas de certificat de naissance, donc pas de passeport, et ça, c'était un gros signe de l'État qui défaillait totalement et qui ne pouvait plus du tout s'occuper de rien d'être plus basique, c'est-à-dire garantir une existence officielle aux enfants qui naissent. Mais là, c'est autre chose. Ça s'est passé depuis mercredi à Tuzla, c'est la troisième ville du pays, dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine. C'est parti d'une Un groupe Facebook apparemment qui disait soyons 50 000 personnes dans les rues pour un futur meilleur. Et ce groupe était lancé par qui ? Des travailleurs au chômage. Et des travailleurs au chômage, pourquoi ? Parce qu'ils étaient employés dans des entreprises publiques de la région, de l'industrie chimique et forestière, que ces boîtes-là ont été privatisées, et que du moment où elles ont été privatisées, elles ont cessé complètement de verser les salaires aux salariés, et au final, elles ont juste déclaré une faillite, et les dirigeants se sont barrés avec le fric, et les gens, ça les a vraiment assez marqués, parce que c'est un pays où il y a 44% de chômage, où quand on vit plusieurs mois sans salaire, c'est super tendu, comme partout. Et à quelques centaines, mercredi, c'était à Tuzla, dans cette ville, ces nouveaux chômeurs, en gros, ont fait cette manif-là. Et hyper vite, ils ont été rejoints par des milliers d'habitantes de la ville. Et ça a dégénéré en révolte qui a fait hyper peur et qui continue à faire peur au gouvernement. Parce que tout de suite, les manifestantes s'en sont pris au bâtiment gouvernemental du canton de la région, quoi. Et ils ont réussi à forcer le cordon de flics, ils sont rentrés dedans, ils l'ont occupé. Ils ont bloqué toutes les rues autour et pendant plusieurs heures, c'était un peu les flics qui essaient de reprendre le contrôle et les manifestantes qui résistaient. C'était les premières manifestations violentes en Bosnie depuis la création du pays. Et là-dessus, ça a ému beaucoup de monde dans tout le pays. Et le lendemain, c'était hier jeudi, il y avait dans une dizaine de villes des manifestations et ça continuait à Tuzla, là d'où tout était parti. Avec 130 blessés, dont 102 flics quand même qui sont faits matraquer par et seulement 30 manifestants blessés. Donc, je sais pas, les manifestantes ont été assez courageuses. Et c'était en même temps des manifs à Sarajevo, des manifs de partout et des manifs qui ont continué pendant la nuit de jeudi. Et pendant la nuit de jeudi, déjà, rien que même du côté des flics, en fait, il y avait les syndicats de flics qui appelaient leurs syndiqués et les collègues à cesser de bloquer les manifestantes, c'était cesser de défendre les politiciens et à rentrer en grève. Jeudi soir, en même temps, c'était le site du gouvernement de Tuzla et le site du gouvernement de Bosnie-Herzégovine qui étaient piratés et mis hors service sur Internet. Et le même jour, du coup, les manifestantes demandaient la démission du canton de Tuzla, de tout gouvernement du canton de Tuzla, la libération des manifestantes arrêtées et tout ça. Et pendant ce temps-là, à Sarajevo, dans la capitale, les manifestants s'en prenaient aussi au gouvernement cantonal de Sarajevo. Et c'est encore monté en pression aujourd'hui, où à Tuzla, ça a été assez radical, parce que le bâtiment du gouvernement cantonal a été pris d'assaut et incendié par les manifestantes. Ça a été fait de même à Sarajevo, dans la capitale. Et à Sarajevo, dans la capitale, c'est aussi le siège de la présidence de Bosnie qui est parti en flammes aujourd'hui. Alors de plus en plus, là, les journaux commencent à titrer Révolution, et de fait, dans des dizaines et des dizaines de villes, c'est les mêmes scènes de manifestations immenses dans un pays où, voilà, quoi. Il n'y en a pas, et il y en a très peu, et surtout pas des manifs violentes et une colère comme ça. Et alors, c'est une affaire à suivre. On commence à en parler un petit peu dans les médias, alors vous en entendrez parler aussi ailleurs qu'à Radio Canu, peut-être ce week-end. Voilà pour ce qui est de la Bosnie.
Et du coup, le Canu Info du vendredi soir revient en France avec une actualité qui n'est pas plus brûlante ou plus forte en ce moment. Elle est continue et c'est les lois islamophobes qui s'ajoutent d'année en année, que les gouvernements soient de gauche ou de droite. Et voilà, on va écouter un clip qu'on fait une coordination qui... on les écoute, hein. Autant se taire quand on n'a pas de choses meilleures à rajouter.
And Interdiction du hijab à l'école et du niqab dans l'espace public.
Interdiction faite aux mères portant le hijab d'accompagner leurs enfants lors de sorties scolaires.
Obligation faite aux enfants musulmans de consommer de la viande non halal dans les cantines.
Volonté de prohiber le foulard à l'université et d'autoriser les entreprises à l'interdire sur le lieu de travail.
Jusqu'où iront ces mesures et lois d'exception ?
Qui décrète que l'islam et les musulmans sont le problème politique numéro 1 ?
Il ne se passe pas un jour sans que l'islam et les musulmans ne focalisent l'attention des élites médiatiques et politiques.
Médias et politiques portent une responsabilité dans les agressions physiques, parfois meurtrières, qui se multiplient contre des musulmanes.
Nous, premières et premiers concernés par ces interdits professionnels,
ces violences physiques et verbales,
ces mises à l'écart sociales, politiques et économiques,
nous refusons ces mesures, ces lois racistes.
Injuste et injustifiable.
Il est temps de nous rassembler pour stopper l'arrivée de la prochaine question qui surgira immanquablement.
Pour ou contre notre existence ?
Il est temps que nous affirmions par nous-mêmes ce que nous voulons.
Et comment nous aimerions vivre ici et maintenant ?
Parler avec nos réalités, nos priorités,
notre auto-organisation est la condition première pour mener une lutte efficace contre l'islamophobie.
Que ce soit contre l'islamophobie d'État ou contre celle qui sévit dans la société, les associations et les organisations politiques, de droite comme de gauche.
Notre auto-organisation est nécessaire pour construire ensemble la campagne pour l'abrogation des lois islamophobes.
Et voilà, et voilà.
De Philippe Laloy, c'est terminé.
On enchaîne sur l'autre reportage. Restez avec nous. C'est le futur reportage qu'on va vous diffuser un peu plus tard dans le Canu Info. Juste pour filer leur contact mail, c'est contact@abrogation-loi-islamophobe.org. Ah oui, non, de pair, tiré entre loi islamophobe.
Mais sinon, on peut retrouver ça où sur Internet, parce que peut-être c'est.
Oui, ça aussi, vous pouvez retrouver ça sur le site État d'Exception. Voilà, cette vidéo vient du site État d'Exception, c'est pas mal de dire ses sources. Et en fait, ils organisent une conférence ce samedi 8 février à 14h à Marseille. Alors vite, allez sur la SNCF pour voir si il y a des Ouigo à 10 euros pour aller à la conférence. Non, je rigole, mais sûrement, il y aura d'autres choses qu'on vous racontera. Et puis aussi, j'avais envie de dire que sur le site Radio Rageuse sur internet, il y a une émission qui vient d'être faite par l'émission Dégenrée, une émission féministe de Grenoble qui s'appelle Islamophobe et féministe anti-islamophobe, qui parle de la montée de cette idée raciste, de ses fondements, de sa lutte pour la combattre. À partir d'une semaine pour l'égalité et contre le racisme qui était organisée en novembre à Lille. Et notamment, il y a des sons d'un rassemblement en soutien aux femmes voilées victimes d'agressions islamophobes et pour un féminisme anti-islamophobe, voilà, dans la continuité du sujet. Et pour terminer notre rubrique non carcérale, je vais vous parler assez local et je vous parlais non pas de Lyon, mais de Villeurbanne, qui, Villeurbanne, a été classée en tête des villes, dites-vous, engagées contre le racisme et les discriminations par le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, et par République et Diversité en décembre dernier. Donc du coup, ces deux organisations évaluaient l'action des politiques locales de 50 grandes villes de France sur la base d'un questionnaire en deux parties. Politique publique, du coup c'est pour les politiques publiques, c'est action sociale, emploi, éducation, logement, accès aux droits, prise de position et ressources humaines, recrutement, formation. Et il y avait un jury de spécialistes, parce qu'il faut toujours des spécialistes sur les sujets pour pouvoir bien juger si les choses sont bonnes ou pas, parce que quand t'es spécialiste, t'as plus de recul. Du coup, les spécialistes étaient des universitaires, des responsables associatifs, des experts nationaux et internationaux qui ont examiné les données et classé les villes en fonction de leurs pratiques et de leur engagement. Et attention, du coup, Villeurbanne est classée en tête et se distingue notamment, mais alors là, c'est impressionnant sur quoi il se distingue, la création d'un comité consultatif sur la non-discrimination dans l'habitat et le logement. Waouh, déjà c'est trop fou.
Ça, après, c'est bien d'avoir un comité consultatif.
Ouais, c'est souvent des trucs qu'on veut faire croire que c'est la démocratie, mais en fait c'est pas très très efficace. Voilà, du coup c'est juste un comité. Après, d'un réseau de vigilance pour l'accès aux droits. Bon, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on ne sait pas vraiment qui ça concerne, et puis en habitant à Villeurbanne, on n'entend pas vraiment parler. L'édition d'un guide pour recruter sans discriminer et l'organisation d'une opération de testing dans le domaine du logement et un partenariat avec les agences immobilières. Mais je pense qu'ils ont oublié aussi de dire que Villeurbanne, comme toutes les villes de France, expulse les squats et du coup, ben, comme toutes les villes de France, remettent les gens à la rue quand ils ont un squat et du coup ne leur proposent pas de solution de logement. Du coup, on est un peu méfiant et sceptique sur qu'est-ce que ça veut dire d'être classé en tête des villes et engagé contre le racisme et discrimination quand on voit l'expulsion qu'ils ont mis en place cette semaine sur le territoire de Villeurbanne d'un squat rue Prima où du coup il y avait 100 familles qui sont fait expulser par 5 camions de gendarmes mobiles. Voilà, c'était un peu la rubrique de qui se fout-on.
Et ben, pour enchaîner avec cette joyeuse rubrique, on va peut-être écouter encore un petit morceau de musique.
Oh oui, chic.
Allez, c'est parti.
Oui.
Yo, yo. عمي بو مسعود بتبهدل للنقود ما معه حق وقود بالاخر بيضرب مرضه بيحس عنده نفوذ اشرف له بالخليج بس الكهول ما فيش مش طارق اوتوبيس بالدين وبالطفنيس كل ما يضوي الراديو ما بيسمع غير تشويش
Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et c'est toujours le Canu Info anticarcéral du vendredi soir. Et on continue avec justement la partie anticarcérale.
Et on commence par la Turquie.
Je parle turc.
Ouais, comme tu veux.
Öncelikle Türkiye'de neler geçtiğini anlatmak istiyorum.
En Turquie, il y a des prisonniers.
On a des petits problèmes de traduction.
Ouais, excusez-nous, on n'est pas très très fort en traduction turque-français.
C'est vrai, je parle après, tu traduis si tu veux.
Ok, ouais, c'est mieux comme ça.
Tout, voilà. Arfin'de patlama mücadelesi hayatını kaybetti. Türkiye'de yani şunu söylemek istiyorum. 13 yıl içerisinde yaklaşık 2300 kişi hayatını hapishane içerisinde kaybetti. Yani bu şu demektir. 2 günde bir insan hayatını kaybediyor. 2 günde bir. Aynı zaman içerisinde Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman 140 bin mülteci Türkiye'den geri Rojava'ya döndü. 140 bin mülteci. Yani yaptığımız şeye bakılırsa eğer Türkiye'nin durumu ve şu anda geldiğimiz aşamaya bakılırsa Türkiye ve Suriye arasındaki olan hani Erdoğan çıkıp da diyordu biz hak veriyoruz, şunu veriyoruz, bunu veriyoruz. Peki madem hak veriliyorsa neden 140 bin kişi geri topraklarına geri dönüyor? Hala savaş varken. Diyeceklerim bu kadar. Voilà.
Alors je crois que tu nous as parlé de, des prisons en Turquie qui mais il y a quoi? Il y a, en fait du coup il y a tous les deux jours des personnes qui meurent voilà, dans les prisons en Turquie sous les coups des gardiens ou parce qu'ils sont pas assez à manger.
Exactement.
Ou pour des mauvais traitements divers et variés, c'est ça?
Voilà. Et exactement comme ça.
Voilà. Du coup, ben, on vous conseille d'aller sur où c'est qu'on pourrait avoir plus d'informations.
Ouais.
Sur où? Internet, il y a des adresses.
Frat Haber Agence.
Ouais. Et c'est en anglais.
Ouais, c'est anglais aussi.
Anglais, kurde, turc.
Anglais, turc, kurde, en arabe aussi. Arabe aussi.
Arabe aussi.
Ouais.
Ok.
Il faut sur Google, il faut écrire Frat Haber Agence.
Ok.
Voilà. Et ça s'écrit comment?
Firat, F-I-R-A-T, Haber, ouais. H-A-B-E-R. Haber, ça veut dire nouvelle en turc. Voilà.
Ok, ça marche, super. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
Vous en prie, merci beaucoup, vous êtes très gentil.
Et on continue avec, du coup, Philippe Lalouel, qui est un prisonnier longue peine qui vient de repasser à la cour d'appel de Montauban le 30 et 31 janvier dernier. Et juste pour situer vite fait qui est Philippe Lalouel, depuis 86, il a vécu pour tout et en tout 13 mois hors des murs pour des vols. Il est entré en prison à 86 ans, il avait alors 20 ans, et lors de son arrestation, il est blessé par la police, mené à l'hôpital, transfusé avec du sang contaminé. Il prend 8 ans et apprend en même temps qu'il est séropositif. Pour tenter de ne pas mourir du sida en prison, il tente de s'évader plusieurs fois et il parvient à deux reprises au début des années 90. Pendant ses courtes cavales, il vole pour survivre en clandestinité. Pour ses faits commis sans violence, il écope au milieu des années 90 de dizaines d'années de prison qui seront du coup confusionnés, qui seront ramenés à 25 ans. En 2009, Philippe avait donc purgé plus de 22 ans de prison, dont 10 à l'isolement, quand il bénéficie d'une sortie sous le régime de la liberté conditionnelle. Mais sans préparation préalable, ce que le jargon de la paix nomme une sortie sèche. Sans aucun suivi, aucune aide, il est astreint à résidence dans un village de Haute-Garonne où il ne connaît personne. Son patron, qui touche de l'argent de l'État pour cette réinsertion, le paye une misère et Philippe est logé dans des conditions qui lui rappellent sa cellule. Il est isolé, sans le sou, loin de ses proches qui lui restent inadapté à un monde qu'il ne connaît plus. Après 4 mois de cette vie qu'il décrit tous les jours dans un journal pour ne pas craquer ou devenir fou, il finit par aller voler de l'argent dans des agences postales de la région. Une arme non chargée, pas de violence, des sommes dérisoires, mais il est vite arrêté. Beaucoup de prisonniers, longue peine ou pas, se suicident dans la situation de Philippe. Lui, il a chouré. Pour ces faits, en décembre 2012, la cour d'assises de Toulouse lui administre une peine d'élimination sociale. Du coup, ça c'est les peines d'élimination sociale, c'est les termes du procureur. Et du coup, il aura une peine de 20 ans. Cette peine, il ne commencera à la faire qu'en 2019, vu que c'est une peine qui va par-dessus toutes ces peines qui courent jusqu'à 2019. C'est l'absurdité de l'arithmétique pénale. 2039, c'est la date auquel sera la fin de sa peine. Philippe est aujourd'hui âgé de 46 ans. Il se bat depuis 26 ans contre le VIH. La santé en prison n'est qu'une chimère. Voilà, le condamné à 20 ans, c'est en réalité le condamné à la mort. Et du coup, ça c'est un texte écrit par l'envolé qui a suivi son procès et qui le raconte à la radio locale. Et on a pris ce son sur Son en lutte et on l'a un peu raccourci, un peu mis de la musique et on vous laisse l'écouter.
Alors le procès de Philippe Lalouel s'est terminé vendredi soir, vendredi 31 janvier. Donc il a duré deux jours, les 30 et 31.
Verdict, c'est 17 ans. 17 ans alors qu'en première instance c'était 20 ans.
Ouais.
Donc voilà, enfin c'est juste... ça revient à peu près au même, hein, quand même. Je veux dire, là, on monte dans des peines infinies, 3 ans, bon, bah, certes, un petit peu baissé, mais.
En gros, c'est confirmé, quoi.
c'est confirmé. On peut dire ça, voilà. Enfin, oui, on peut dire qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est joué dans ce procès qui n'est pas du tout négligeable pour Philippe. Ça, c'était un petit peu pour... En faisant un petit bilan, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. C'est que, bah voilà, il a pu parler, quoi. Il a pu s'exprimer, il a pu dire ce qu'il voulait. Lui, il considère ça comme un procès, voilà, où il a pu dire. Il ne faisait pas beaucoup d'illusions, hein, donc... Il a pu raconter sa vie, il a pu dire ce qu'il pensait de la prison, il a pu dire ce qu'il vivait. Et ça, c'est pas rien. Il y a des témoins qui sont passés à la barre. D'abord, il y a Pierre donc, qui fait un film sur les longues peines et qui fait un film aussi sur, sur Philippe. Ils sont vraiment amis. Et donc lui, il a raconté qu'est-ce que c'est de... Il a essayé de faire comprendre aux jurés qu'est-ce que c'est de, d'être ami avec quelqu'un qui est enfermé. Et que lui, il n'avait pas face à lui un criminel, il avait face à lui un ami, et il a essayé de faire comprendre, essayé de faire passer la frontière aux jurés, une frontière qui qu'a mis la justice et qui définit essentiellement cet homme comme un criminel, alors qu'il est bien autre chose que ça. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça a été vraiment toute une discussion. Alors, constamment interrompu par la juge, qui, dès qu'il était question de prison, puisque... donc Pierre a raconté les parloirs, comment ça se passait, etc. Parce que il lui dit stop, vous n'êtes pas là pour faire le procès du système. Donc il a été interrompu plusieurs fois. Il disait mais attendez, je fais pas le procès du système. Moi je ne connais qu'une personne que j'ai visitée en prison. Donc il faut que je puisse raconter qu'est-ce que c'est d'aller à Moulin, de passer tous les sas, de faire un colis de Noël que je pense manger avec lui en fait. Tout est découpé en petits morceaux, il va le manger tout seul dans sa cellule. Enfin voilà, qui raconte tout ça, quoi. Donc chaque fois qu'il tentait de raconter ça, tac, il était interrompu. Ensuite, il y a eu une autre témoin, qui est donc Corinne Lagdari, qui s'occupe d'Act Up Toulouse. Oui. Donc elle qui a rappelé un peu qu'est-ce que c'est d'avoir le VIH, puisque hein, je le rappelle pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais en 80... Donc juste avant sa première peine, donc Philippe Lallouel se prend une balle et amené à l'hôpital et transfusé
dans les années 80
et contaminé par le sida, enfin par le VIH. Donc il rentre en prison à une période où il n'y a pas de traitement, enfin ça j'en ai un peu parlé déjà la dernière fois, il faut attendre 96 pour qu'il y ait des trithérapies, donc c'est pour ça qu'il s'évade, etc. Donc elle va un peu raconter ça, sachant qu'elle a le même âge que lui, qu'elle a été contaminée au milieu des années 80, voilà, donc elle raconte ces années-là, qu'est-ce que c'est voilà, d'avoir le VIH, comment est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de soins ou très peu en prison. Et là, il va y avoir un truc assez dingue, c'est le procureur qui va l'interrompre. Qui va l'interrompre plusieurs fois en lui disant que elle n'est pas médecin, elle ne peut pas parler du VIH comme ça. Voilà, enfin c'est juste inadmissible. Cet homme n'est pas malade. Enfin vraiment dans un espèce de déni incroyable. Donc très violent, très violent. Mais néanmoins, elle a réaffirmé à chaque fois, elle s'est pas laissée démonter. Donc il a fallu vraiment se battre pour les témoins de la défense. Et puis après, il y avait un troisième personnage qui est Olivier Cueto, qui est un journaliste qui a participé à l'étude la plus importante sur les longues peines, qui est au milieu des années 80. Et donc il raconte qu'est-ce que c'est qu'une longue peine un peu. Mais pareil, lui, constamment, la juge les renvoyait en disant « Vous n'avez pas de lien avec Philippe Lallouel, qu'est-ce que vous faites là ?» Voilà, etc. Donc il a eu extrêmement de mal à s'exprimer. Bon, il a quand même réussi. En fait, l'essentiel de son propos, c'était de dire « On a aboli la peine de mort en France au début des années 80 et on a remplacé ça par des peines jusqu'à la mort. » On est passé des peines de mort aux peines jusqu'à la mort. Ouais, okay. Et là, on est dans un système où, effectivement, quand il a fait son étude au milieu des années 80, c'était pas possible de se rendre compte. On n'avait pas encore les conséquences sous les yeux. Là, on les a. Mmh. Et là, c'est un système complètement qui est en train de complètement s'emballer, complètement fou, et qui est plus capable de s'arrêter, et qui va fabriquer, effectivement... C'est pas simplement triste, c'est que c'est une situation explosive aussi. Et c'est ça qu'il raconte, c'est que juste, on enferme des gens sans leur promettre quoi que ce soit, juste en leur disant, vous êtes enfermés pour 40 ans, et on a même fabriqué des mouroirs pour eux, qu'ont des sourcards qui a été construit il y a pas très longtemps,
spécialement pour les longues peines, pour des mouroirs de la République, comme disait l'avocate. Donc il a raconté ça, il a dit, et il ne faut pas attendre un changement des lois, ça ne viendra jamais. Par contre, vous êtes les jurés, et vous avez un pouvoir de décision, et vous pouvez changer quelque chose. Là, c'est au niveau des cours d'assises que ça peut changer. Donc bon, il a réussi à placer ça. Voilà. Et ensuite, il y a eu un quatrième personnage qui est venu à la barre, et qui, lui, était quelqu'un qui a monté une boîte de réinsertion pour les longues peines. Il était à la retraite, il a fait ça pendant 30 ans. Et il raconte qu'est-ce que c'est quand on sort, qu'on est juste... Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est une longue peine quand il sort? C'est-à-dire quelqu'un qui est plus capable d'ouvrir une porte lui-même, qui est... Enfin, c'est vraiment... Philippe l'a beaucoup dit aussi, il décrit, voilà, qu'est-ce que c'est la prison? Ça fabrique des handicapés de la liberté, complètement. Des gens qui savent plus comment faire. Je veux dire qu'il y a trop de prisons, avec le système infantilisant qui est la prison. Donc lui, il a raconté tout ce boulot qui fait ça là-dessus. Et c'était important. Ça a permis au moins une chose. Tous ces témoins, ils ont permis à ce que Philippe puisse raconter, du coup. Et la place, en fait, ça a permis de faire de la place pour qu'il puisse raconter un peu sa vie. Voilà. Ensuite, il y a eu le lendemain, il y a eu le procureur. Donc le procureur a fait incroyable.
C'est le même procureur qui avait jugé en première instance
a prononcé une peine d'élimination sociale. Donc il est revenu finir le travail, c'est vraiment ça.
Mais est-ce que légalement c'est possible?
Légalement c'est possible. C'est assez dingue, mais c'est possible. Donc il a refait. Il a refait tranquillement sa plaidoirie, ouais, de la première fois. Voilà. Et alors ici, il a fait encore une fois, je n'ai rien cité sur le SIDA, parce qu'il a fait une sortie, il a rejustifié sa sortie de la veille en disant, moi je sais ce que c'est, on peut pas me critiquer là-dessus, parce que je sais ce que c'est, j'ai accompagné des gens jusqu'à la mort. Et surtout, en 87, moi j'étais magistrat, j'étais procureur. Et j'ai requis des peines pour des gens qui avaient le sida, enfin, qui étaient contaminés, et j'ai refusé d'en tenir compte. Parce que en tenir compte, ça serait de la discrimination. Ça serait leur mettre une étoile jaune de sidéens.
Voilà, ouais.
Donc là, on est en plein délire, quoi. Donc il a redemandé 20 ans, tranquillou. Voilà. Et il a justifié le fait qu'il fallait effectivement éliminer Philippe Lallouel, et que c'était un gâchis. Alors, sous-entendu, s'il prend 20 ans, si je vous demande de prendre 20 ans, c'est pas vous qui prononcez quelque part la peine, c'est Philippe Lallouel lui-même qui prononce sa peine. Enfin, je veux dire, c'est le gâchis, c'est lui qui l'a fabriqué. Enfin, il est responsable de ses actes, etc. Enfin, tout ce truc-là. Avant ça, il y avait eu un peu toutes les victimes. Je passe très vite sur les victimes, parce que les victimes des postières, donc bon, qui parlent de la violence avec lesquelles, voilà, elles se sont fait pointer un pistolet à leur direction, etc., 83, mais elles ont déjà eu leur sou, donc elles étaient beaucoup moins véhémentes. Parce qu'en première instance, le procès civil, vous savez, il y a à la fois le procès pénal pour la peine et le procès civil. Et c'est une exception mondiale, d'ailleurs, que les victimes et l'avocat des victimes soient là pour prononcer la peine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on considère, par exemple, dans le système américain, que les victimes n'ont pas à être là pour prononcer la peine, puisqu'elles sont dans la vengeance, elles peuvent pas prononcer la peine. Mais c'est pas comme ça pour le système français. On considère précisément qu'il faut faire peser le poids de la parole de la victime dans la peine. Donc voilà. Donc bref, elles étaient là, elles ont redit, à peu près la même chose, etc. Enfin, la violence que tout ça suppose, avec une arme qui n'était pas chargée, etc., etc. Mais bon, voilà. Enfin, vous voyez bien. Et après, il y a eu la plaidoirie de Delphine Boisel, maître Boisel, qui était une magnifique plaidoirie et qui a raconté, effectivement, parce qu'elle connaît, elle connaît bien les longues peines, elle défend d'autres longues peines, et surtout, c'est quelqu'un, comme je disais, qui, j'ai déjà dit à Saint-Antoine, mais je le redis, donc c'est quelqu'un qui suit les gens qu'elle défend une fois qu'ils ont été condamnés, qui essaie de trouver des confusions de peine, etc., etc. Donc voilà, enfin c'est en tout cas c'est quelqu'un qui a fait une très belle plaidoirie et en gros qui a mis vraiment les jurés et le tribunal devant Voilà, maintenant on savait, ils ont eu suffisamment d'éléments pour comprendre qui était Philippe, etc. Et qu'il y avait des gens dehors qui étaient prêts à l'accueillir, etc. Et que ce serait une condamnation à mort, etc. Enfin, voilà, elle a... Et que c'était un cadeau empoisonné, cette conditionnelle, puisqu'il n'était pas capable à ce moment-là, il fallait qu'il soit un peu entouré, ce qui est le cas maintenant, etc. etc. Donc voilà, bon, elle a fait une très belle plaidoirie, et là-dessus, en une heure et demie, c'était plié, et les jurés et le tribunal ont prononcé une peine de 17 ans. Voilà. Et tout ça, et en même temps, sans... ça, c'était aussi... Avec énormément de mépris pour les gens qui étaient dans la salle. En l'occurrence, il y avait quand même entre 40 et 50 personnes qui étaient venues un peu en soutien à Philippe. Et voilà, ils ont même pas attendu que tout le monde soit dans la salle, parce que les contrôles, ils ont... Voilà, ils ont effectivement fait des contrôles très lentement. Et voilà, du coup, et là, et Philippe a pu dire quelques trucs à la fin.
C'est aller vers cette peine d'élimination sociale.
Voilà, enfin, Philippe a dit, bon, bah, ok, très bien, là, vous étonnez pas si je reviens dans les cours d'assises, hein, juste maintenant, bah, voilà, vous m'avez enterré, mais ça se passera, enfin, voilà, c'est juste, il n'y a plus tellement de recours, hein, enfin, je veux dire, bon, il y a la cassation, mais il fera pas ça. Il ne va pas se retaper un procès, c'est mort maintenant, ça, je veux dire, ça suffit. Et voilà, donc là maintenant, on rentre une deuxième phase. Du coup, nous, enfin, voilà, comme on a été quelques-uns, donc essayer un peu de préparer le procès, c'est-à-dire, voilà, il y a eu une petite brochure qui a été faite, qui a été faite un peu en bonne intelligence avec lui et son avocate, etc. Enfin, juste, en tout cas, il n'y avait rien qui était... Et on a essayé, et ça c'était vraiment à destination des jurés, ils l'ont eu. Hein, et effectivement, l'idée était voilà, de pouvoir leur donner des éléments pour qu'ils puissent juger correctement, avec l'avis de Philippe, ses textes et son récit de conditionnel, une lettre dans laquelle il raconte aussi sa vie. Voilà, donc on a tenté quelque chose, on a tenté quelque chose, voilà, on a essayé de le faire poliment, gentiment, etc. Bon, bah ça n'a pas produit l'effet, parce que la mécanique d'une cour d'assises est tellement puissante. Je dis pas que tous les gens étaient des abrutis, je dis pas ça, je dis simplement que la machine fabrique vraiment le fait de prononcer ces peines, puisque il y a un élément, bah oui, ça, je peux quand même en parler de trompe, c'est que cette juge, avec un autre juré légèrement composé différemment, mais c'était le même panel quand même, la veille du procès avait prononcé une peine de 12 ans pour une histoire très proche d'un braqueur de poste récidiviste. Et c'était juste impossible qu'elle donne pas plus le lendemain, que le juré donne pas plus que 12. Pour une histoire assez proche, avec encore plus de récidives, etc., plus de braquages. Donc voilà. Et là où on imaginait qu'il y avait une petite brèche, en fait, juste il faut, enfin voilà, il faut brusquer le dispositif beaucoup plus pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est continuera à parler, ouais, de cette histoire, ouais. car et je finirai peut-être là-dessus. Ouais. Nul n'est censé ignorer la Louelle. Et au-delà de la blague, ça veut juste dire que nul n'est censé ignorer les longues peines, ouais. Puisque c'est, enfin voilà, il y a quelque chose qui, on laissera pas ces gens mourir dans l'oubli, quoi.
Est-ce qu'il y a une confusion des peines qui est possible pour lui ?
Non, non, non. En fait, la confusion des peines a été faite parce qu'il a eu jusqu'à 96 ans de prison à un moment. Parce qu'en fait, quand il s'est évadé dans les années 90, évidemment, il a commis des braquages pendant sa cavale.
Ouais, mais oui, pour vivre,
il
pour survivre.
Il n'a pas été travaillé, quoi. Mais.
Quoi que c'est un travail, il y a les braquages.
96 ans qui ont été réduits. C'est qu'évidemment, Philippe fera sa peine en entier. Et qu'il n'y a pas de conditionnel pour un homme qui a rompu sa conditionnelle. Ouais. Contrairement au petit calcul qu'avait fait le procureur. Donc voilà, enfin, je veux dire, on est effectivement, il y a des questions qui sortent en 2027, si mes calculs sont bons, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, là, voilà, c'est juste à la fin, au moment du verdict, le premier réflexe qu'il a eu, c'est pas un réflexe pour lui, il a eu un réflexe pour tous ses frères qui étaient en prison, en disant voilà, enfin moi je fais partie d'une histoire et c'est y a pas que moi dans cette histoire, et il a pas du tout ramené ça à lui aussi, hein. Enfin je veux dire.
Et voilà, donc maintenant on va passer à notre petite rubrique habituelle, la rubrique des brèves.
Et on commence avec les brèves de détention qui racontent ce qui se passe en prison. Parce qu'en prison, on vit enfermé et de fait, la vie est invivable quand on est enfermé et on s'attache à relayer toutes les révoltes ou certaines révoltes qui nous touchent, qui sont individuelles ou qui sont collectives dans les prisons de France et d'ailleurs. Et ça commence maintenant avec, c'était dimanche 2 février, dans la prison de Fleury-Mérogis, plus de 300 personnes se sont massées devant la maison d'arrêt pour demander des explications sur l'état de santé d'un détenu. Denise Haïdine, 21 ans, serait dans le coma après, selon l'administration pénitentiaire, avoir tenté de se pendre dans sa cellule mardi 28 janvier. Il y était placé en détention provisoire et les manifestantes réclament la vérité sur ce qui s'est passé ainsi que sur son état de santé.
Ensuite, on part à l'EPM de Mézieux. C'est un mineur de 17 ans qui est actuellement incarcéré là-bas et qui s'était fait choper avec plus de 1000 euros en cash sur lui. On ne sait pas comment il a réussi, mais en tout cas, il a réussi à les faire rentrer dans la prison et c'est un beau coup de filet.
À la tôle de Bocuse en Suisse, les détenus entendaient protester contre la qualité et la quantité de nourriture, parfois trois fois inférieure à la normale, mise à leur disposition derrière les barreaux. Du 3 au 5, une partie d'entre eux n'ont rien mangé. Le mercredi matin, des contrôles avaient été ordonnés tant sur la qualité que sur la quantité, ce qui a permis de pacifier la situation. La direction va continuer à faire ponctuellement des contrôles. Les détenus ont repris la bouffe.
On part en Espagne maintenant avec un détenu du groupe indépendantiste basque ETA, qui s'appelle le détenu Arcaiz Belon Blanco, qui a été retrouvé mort mercredi 5 février dans sa cellule d'une prison espagnole, donc où il purgeait une peine de 12 ans de prison et d'où il devait bientôt sortir. La prison avance la thèse de la mort naturelle, mais le réseau de soutien aux prisonniers basques, ETRAT, peut-être qu'on dit comme ça, je ne sais pas, affirme pour sa part que Arcaiz Belon Blanco avait subi plusieurs agressions en prison en 2010 et 2013 pendant sa détention à Séville. Rappelant qu'il s'agit du troisième décès de prisonnier basque en prison en moins d'un an, après la mort de Aniel Figueroa et de Javier López Pena, ETRAT affirme qu'il est nécessaire et urgent d'en finir avec la dispersion des prisonniers basques, laquelle dispersion peut favoriser les agressions et événements tragiques comme celui-ci. En gros, il y a environ 520 militantes basques qui sont aujourd'hui détenues dans des dizaines de prisons espagnoles et françaises, un peu partout.
Ensuite, un incendie s'est déclaré mercredi 5 au soir dans une poubelle d'une cour de la maison centrale de Poissy dans les Yvelines. Vers 20h55, le feu a été éteint par les pompiers arrivés en nombre. Le dégagement de fumée a gagné des cellules qui étaient juste à côté. Deux détenus ont été légèrement intoxiqués, mais rien de grave a priori, et on ne connaît pas les raisons de cet incendie.
Et un détenu de 30 ans qui devait être jugé jeudi après-midi a été retrouvé pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt d'Angoulême. L'homme se serait pendu dans la nuit de mercredi à jeudi avec un drap dans la douche de sa cellule qu'il partageait avec un co-détenu. Et voilà, il y a le banc public qui fait le décompte de tous les morts et suicides, les morts suspectes et suicides en détention.
On va passer maintenant à nos petites brèves d'évasion, parce que bien sûr, ils essayent de nous faire croire que les murs de prison sont infranchissables, et tous les jours, il y a des prisonniers ou des prisonnières pour nous prouver que tant qu'on essaye, et ben, on peut bien y arriver à des moments. Et on leur rend hommage aussi en faisant ces petites brèves de détention.
Marwan s'était évadé du palais de justice de Verviers le 24 décembre, il court toujours et a fait récemment parler de lui. Visiblement, il ne s'ennuie pas. En effet, sur sa page Facebook, sur celle de sa copine, Marwan apparaît avec elle en bord de Seine à Paris, avec la tour Eiffel en arrière-plan et sur des photos postées les 25 et 26 janvier. La copine elle-même avait posté un message au jour de l'évasion. « Bonne chance à celui qui s'est évadé. S'ils n'ont pas assez de mesures de sécurité, c'est pas la faute du détenu. Il n'a fait que tenter sa chance et j'espère qu'ils ne le rattraperont pas. Comme ça, c'est clair. » gonflée de la part d'une jeune femme qui avait été interrogée par la justice directement après l'évasion de Marwan Benalal à l'entrée du palais de justice.
On continue avec Michael, 40 ans, aux États-Unis, qui aurait dû rester jusqu'à la fin de ses jours en prison, où il est quand même depuis 93, ça fait 30 ans là. Mais il s'est évadé le dimanche 2 février au soir de la prison d'Ionia dans le Michigan. Portant un uniforme blanc de chef cuistot, il a réussi à se barrer et se camoufler dans le paysage enneigé. C'est classe. Ensuite, il aurait pris en otage une femme pour s'emparer de son véhicule pendant 160 km et aurait continué sa route. On lui souhaite une bonne route.
Lundi 3 février, un condamné à perpète était conduit au tribunal de Gallarat, au nord de l'Italie, pour une audience judiciaire. Il venait de descendre d'un fourgon de la police pénitentiaire lorsque le commando a débarqué. L'action a eu lieu en plein jour, devant quelques passants médusés. Ils ont braqué les gens, leur intimant de laisser aller leurs camarades. Un des agents s'est fait gazer, un des keufs du coup, s'est fait gazer et un autre a été jeté en bas d'un escalier. Puis une fusillade a éclaté, de part et d'autre, une trentaine de coups de feu ont été échangés. Un des assaillants, le frère du condamné, a été atteint par une balle. L'ordre de repli a alors été donné, le taulard s'engouffrant avec ses complices à bord d'une Citroën C3 noire qui est partie en trombe. A commencé une course désespérée en voiture pour emmener le frère, celui qui s'était fait blesser, à l'hôpital, en faisant au passage un petit crochet par le domicile de la mère qui est montée elle aussi dans la voiture pour accompagner son fils blessé. Malgré tout, il est mort une heure après à l'hôpital et on ne sait pas vraiment si l'évadé a réussi à rester à l'extérieur ou s'il a été du coup rattrapé à l'hosto.
Et pour finir avec les brèves d'évasion, environ 400 immigrés d'Afrique subsaharienne, selon les autorités espagnoles, avaient tenté hier, jeudi 6 février au matin, de pénétrer dans l'enclave de Ceuta depuis le Maroc, par la plage et par le poste frontière. La police avait utilisé du matériel anti-émeute, des balles en caoutchouc lancées en parabole par-dessus une barrière de 6 mètres de haut, pour repousser l'assaut des clandestins. 9 migrants étaient morts noyés du côté marocain. Selon la préfecture de Ceuta, les immigrés ont montré une attitude très violente. Ont lancé des pierres et d'autres objets contre les forces de sécurité espagnoles et marocaines. Plus de 40 migrants sont morts dans cette zone en 2012-2013, certainement bien plus. On se demande vraiment où est la violence. On se fait des petits messages pour les prisonniers basques incarcérés dans la région lyonnaise.
Oui. Allez, c'est parti pour les messages des prisonniers. Et après, on vous laisse avec Noise Pollution.
Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre pour. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque, de ce qui se passe ici dans les tôles de Corba, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Kaixo, kaixo nahi, saioa nahi, kaixo ionetxo, saldiko ez izotela deitzen aspaldin. Bueno, bas, hemen txena ingleseko klasen, izan mazalen tarte bat hartut zuri deitzeko, eta bueno, muixu bat bialtzeko azteko, ba, korbazen espetxen zoltean lagun guziri, eta bereziki zuri, jone, muixu handi bat, larun baten super gusto handu nitzela bisitan, behar nuen, esan izun, aspaldiz ginen egon, gauza askonezken kontatzeko, eta bueno, esatea ere zure konsejo bat izan ditela gauza batzuk kokatzeko, eta bueno, gauza batzu moldatzeko, eta hoxe, ba, bon, animo pilo bat eman nahi dizkizot, segitzeko zan bezala, ikaragarri ezala, eta pilo bat matxeza jotela, eta hoxe, ba, musu handi bat, eta animo denai, eta utzi goiei. Musu bat, agur.
Et voilà, le Canu Info du vendredi soir se termine. On vous rappelle du coup le prochain rendez-vous pour laisser des messages pour vos proches qui sont incarcérés dans les tôles de la région lyonnaise. Vous pouvez nous appeler du coup le 19 février de 19h à 20h sur le numéro du bureau de Radio Canu qui est le 04 78 29 26 00. Et bientôt, nous allons avoir un téléphone portable sur lequel vous pourrez nous laisser des messages. Voilà, et ça sera n'importe quel moment de la semaine et on pourra toujours les diffuser tous les 15 jours sur le Canu Info du vendredi soir. On vous laisse avec Noise Pollution sur Radio Canu 102.2 FM. Ciao.